Il est 19h sur campus et d'ailleurs vous avez bien raison de nous écouter. Tout de suite, c'est l'heure du sous-marin.
Allez, allez, on se dépêche, allez!
Vie étudiante et associative.
Hissez la grande voile!
Politique, société.
Mais y a pas de voile, abruti!
Culture.
Immersion dans 10 secondes!
Et même du sport.
Make that out. Four forward.
Tout le monde est à son poste ?
Du lundi au jeudi, 19h-20h, le sous-marin, la quasi-quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
Bonsoir à tous, vous êtes bien à bord du sous-marin. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h pour décrypter l'actualité. Une actualité marquée en ce moment par la Lima qui nous propose le Titan, le tournoi international d'impro. Et oui, on peut le dire comme ça, ou presque, hein, plutôt national, c'est ça ?
Tournoi d'improvisation théâtrale amateur national.
National, national, bientôt international, on l'espère pour vous. Et pour ça, eh bien, Nicolas Bonneau et Maxime Vriot sont avec nous dans le studio. Bonsoir.
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 Et on parlera également de la compagnie Métis qui revient après sa tournée à Londres, qui allait présenter RPG 14. On les avait déjà reçus avant qu'ils partent. Bonsoir Marc Béziot, bonsoir Nicolas Berthoud.
Bonsoir.
Bonsoir.
Et d'habitude, nous commençons par un reportage, mais on s'est dit que cette semaine, une revue de presse, ça ferait pas de mal.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Et la revue de presse, c'est à toi Thibaut.
Merci Pierre-Louis. La journée a été un peu chargée, hein, donc pas de choses mirifiques non plus, mais deux, trois choses repérées aux alentours des internets ou de la presse écrite. Je ne sais pas pourquoi, je continue à aller voir ce qu'il se fait sur Rue 89. C'est très souvent le vide, à la fois dans les articles ou dans les commentaires. Un journal indépendant racheté par l'Obs, ça fait un peu tâche. Mais une fois n'est pas coutume, le 11 janvier, un article signé Oscar Barda, game designer, intitulé Trembler, le parti communiste chinois a compris le jeu vidéo. Article qui nous parle d'un aspect méconnu que développe le régime en ce moment. Il s'agit d'un système de crédit intitulé Sésame que les citoyens peuvent obtenir via les différents sites et applications de Tencent. Tencent, c'est le géant du web chinois qui copie les géants du web pas chinois interdits là-bas. Uber, ils ont leur version, Twitter, ils ont leur version, PayPal, ils ont la version, ils ont une version de Facebook aussi, c'est comme ça qu'ils ont fait leur beurre. Et voilà, ce système de crédit, comment ça marche? C'est très simple, vous partagez une photo de la place Tiananmen pour protester contre le régime, vous perdez des points. Vous partagez une info émanant de l'agence de presse officielle chinoise, vous en gagnez. Vos contacts sont de mauvais patriotes, un malus pour vous, à moins que vous ne parveniez à les convaincre. Et ces crédits permettent l'accès à plein de petites récompenses du quotidien, des coupes-files dans l'administration, des taux plus avantageux pour un prêt. Ça fait peur, et oui, un peu ça fait peur, on se croirait en pleine dystopie SF des années 80, mais c'est la réalité véritable. Bienvenue dans la dictature soft 2.0. Dans l'Ouest France d'aujourd'hui, une interview qui vaut le détour, celle de la famille Fresneau. La famille Fresneau, c'est une des familles d'agriculteurs historiques présents sur la ZAD, la zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes. Installés depuis 6 générations, ils risquent l'expulsion à tout moment. Leur sort devait être scellé aujourd'hui au tribunal de Nantes. Il a été différé au 25 janvier. Cette interview est assez triste. Hein. Ils parlent de leur peur de perdre leur terre, ils ne savent pas quoi faire, ils risquent des amendes financières d'une hauteur de 1000 euros par jour, ils ne savent pas quoi faire de leurs bêtes. Voilà, donc réponse quant à la situation à la ZAD le 25 janvier. Espérons que d'ici là, la presse continue à écrire des articles qui sortent un peu du manichéisme auquel elle nous avait habitués. Et pour finir, avec un peu de détente, dans le Vivre à Angers de ce mois de janvier. Vous savez, Vivre à Angers, c'est l'organe d'info officiel propagandesque de la mairie. Un tout petit filet sur le U, la rampe sonore de skate interactive que l'on retrouvera la semaine prochaine au Shabada. Campus sera l'inauguration pour l'occasion. Et bien pour eux, son instigateur, Vincile, c'est un collectif qui regrouperait Hocus Pocus et C2C ensemble. C'est bien essayé, Vivre à Angers, mais Vincile, c'est juste Sylvain Enverlan. Et c'est un DJ qui joue effectivement dans Hocus Pocus et C2C. Je comprends, c'est un peu compliqué, c'est la culture jeune, la mairie, c'est pas leur créneau. Ça sera pour une autre fois.
Merci beaucoup Thibaut. Sur ce, je ne sais pas du tout comment enchaîner, mais c'est peut-être ça l'impro finalement.
La culture jeune.
Voilà, la culture jeune. Non, j'étais parti dans l'idée d'improviser pour annoncer la Lima, mais je crois que la transition a légèrement loupé. On vous a préparé un micro-trottoir. Thibaut, c'est toi qui l'as préparé d'ailleurs.
Oui, voilà, une après-midi glaciale dans les rues d'Angers. Et les micro-trottoirs, c'est toujours un exercice génial, se faire rembarrer à la longueur de temps. J'ai l'impression de bosser pour Greenpeace, mais on a quand même pu réussir à obtenir quelques réponses.
Il va y avoir la quatrième édition du Titan au Théâtre Chanzy du 22-24 janvier. Vous voyez ce que c'est ?
Pas du tout. Non, pas du tout.
Pas du tout.
Non.
Non, pas du tout.
Absolument pas, je ne connais pas Titan.
Vous avez une idée de ce que c'est un peu le théâtre d'impro ?
Peut-être c'est un petit peu peut-être comme le slam ou des choses comme ça. Genre par exemple, quelqu'un balance peut-être une réplique et l'autre doit improviser autour. Ou peut-être qu'il y a un thème en particulier qui, où tout le monde doit voilà, improviser autour.
Je n'ai aucune idée.
Oui, par contre, le théâtre d'impro, j'en ai vu plusieurs fois. Je connais une ou deux personnes qui sont, en l'occurrence, dans des troupes de théâtre d'impro, donc ça, j'en ai vu, ouais.
Plutôt pas mal de fun, une bonne rigolade.
Ah, c'est bien, non, c'est très bien, oui.
J'aime beaucoup, ça vient du Québec, c'est hyper drôle, j'aime beaucoup.
Ouais, ça pourrait vous intéresser d'assister à ça?
Ouais, carrément, ouais.
Éventuellement, mais je sors pas les soirs. Mes sorties sont limitées compte tenu de mon âge.
Ouais, carrément. Carrément, du coup, ouais. Les deux fois où j'ai dû assister à des matchs, j'ai trouvé ça vraiment génial et super sympa et très bonne ambiance, donc ouais, carrément.
Si c'est un jour où je suis dispo, pourquoi pas, ouais.
Peut-être, bon, enfin bon, j'ai déjà tellement d'autres spectacles que je vais voir que peut-être pas, ça dépend.
Complètement, c'est quand c'est... J'ai envie de le voir.
Nicolas Bonnon, Maxime Vriot, pour répondre à la question, c'est quoi l'impro, c'est quoi le théâtre d'impro? On voit que les enfants sont pas encore au point.
Oui, alors il y a quand même quelques enjeux qui sont et qui ont l'air d'être au fait, hein, parce que c'est drôle effectivement. Donc faut venir parce que c'est drôle. Sinon, la base de l'improvisation, c'est essentiellement un thème qui est donné aux joueurs. Les joueurs ont 20 secondes pour réfléchir sur ce thème et doivent sortir une improvisation qui peut osciller entre 30 secondes et jusqu'à 8 minutes. Voilà, donc en gros, c'est ça la base de l'improvisation. Après, il y a plusieurs formats. Il y a le format match, le format cabaret, et après d'autres formats qui peuvent exister autour de ça. À la limite, on fait du match et du cabaret essentiellement. Et donc le Titan, c'est un tournoi de match d'improvisation.
Alors, qui dit match dit forcément arbitre. Moi, je me suis toujours interrogé sur le rôle de l'arbitre dans un match d'impro. Qu'est-ce qu'il fait concrètement ?
Eh bien, l'arbitre est celui qui donne le thème. Donne le temps d'improvisation et donne le nombre de joueurs qui va jouer sur la prochaine improvisation. Il est aussi là pour faire régner l'ordre, car il donne des fautes aux joueurs lorsque ces joueurs font ces fautes-là.
Ça fait longtemps que vous êtes implanté sur Angers, 1994, si nos renseignements sont bons. Vous avez vu la situation évoluer à la fois dans la ville et à la fois dans le théâtre d'impro en général ?
Alors oui, effectivement. Alors moi, je suis pas à la Lima depuis 1994.
Moi non plus.
Voilà. Mais l'improvisation a énormément évolué en France. De plus en plus de villes ont leur troupe d'improvisation. Et aujourd'hui, c'est quasiment toutes les villes, toutes les dites grandes villes ont leur troupe d'improvisation. Donc oui, ça fait beaucoup de... Ça commence à être très très connu, quoi.
Il y a une troupe à Ancenis.
C'est fou.
Ouais, quand même.
Faut le savoir.
Et donc vous avez, si nos renseignements sont bons, mais environ 70 adhérents, bénévoles.
70 adhérents.
Et donc vous avez une action de formation forcément pour ceux qui viennent. Est-ce qu'on peut venir chez vous sans jamais avoir fait de théâtre, sans jamais avoir fait d'impro ?
Bonne question. On a un week-end d'initiation une fois par an qui aura lieu cette année le 4 et 5 juin.
C'est ça.
Tous les renseignements sont sur le site et il est gratuit.
C'est un week-end entièrement gratuit. Vous venez avec juste votre repas du midi et samedi, dimanche, on vous montre ce que c'est que l'improvisation.
Et non, pas besoin d'avoir un lien quelconque avec l'improvisation, pas besoin d'avoir fait du théâtre. On vient comme on est.
C'est ça. Et c'est... Alors par contre...
sponsorisé.
C'est sponsorisé, exactement.
Et ceux qui veulent par la suite intégrer la Lima... donc sont invités à faire ce week-end d'initiation pour voir déjà, pour apprendre ce que c'est, pour savoir ce que c'est avant de vouloir rentrer à la Lima. Et suite à ça, les joueurs sont, les personnes sont invitées à adhérer à la Lima en tant que non-joueurs, parce qu'on a des non-joueurs et on a des joueurs cabaret, des joueurs match et des joueurs loisirs. Donc joueur loisir entre qui veut, il n'y a pas de, il y a aucune restriction. C'est même un tirage au sort fait par des mains innocentes que je ne nommerai pas. Et après, on fait une petite sélection pour faire intégrer les autres joueurs en match ou en cabaret pour qu'on garde un niveau, parce que c'est quand même un spectacle qui est face à un public payant, donc il faut qu'on garde ce niveau de jeu au sein de la Lima.
Alors, Nicolas Berthoud, vous vouliez poser une question.
Oui, exactement, puisque qui dit match dit entraînement. C'est quoi les entraînements d'improvisation ?
Les entraînements, c'est une fois par semaine, et on y travaille tout un tas de techniques de jeu, de création d'histoire, de personnages. On travaille énormément l'écoute, parce qu'on est parfois nombreux sur scène, donc il faut être capable d'écouter ce qui se passe, de comprendre ce qui se passe. On travaille beaucoup le lâcher prise aussi, la confiance dans le groupe, parce que on a besoin d'être soudés aussi pour pouvoir jouer ensemble. Donc on travaille tout un tas de choses. Ça ressemble souvent à ce qu'on peut faire en échauffement au théâtre. Mmh. Ça ressemble pas mal à ça. Après, on va plus loin dans la création d'histoire. Voilà, on travaille aussi parfois sur des trames, sur des choses comme ça.
Bon, on écrit les textes des prochains spectacles, hein, de toute
on
façon.
On fait aussi ça, ce qui nous prend quand même une bonne demi-heure. Après, on les apprend sur la semaine.
Voilà, mais comme ça, on est sûr d'improviser sur texte.
Vous nous avez dit qu'on pouvait être à la Lima en étant non-joueur. Qu'est-ce qu'on fait quand on est non-joueur ?
On distribue des tracts.
On fait à manger pour les joueurs. On est non, plus concrètement, on fait vivre l'association d'une manière générale. On a des commissions au sein de la Lima. On peut faire partie de ces commissions qui s'occuperont soit de la communication, soit des formations, soit de l'ensemble. Et après, on a des week-ends où on s'offre des week-ends entre nous. Où on fait la fête tous ensemble, donc c'est une sorte de communauté où on s'amuse bien tous ensemble. Et sur les gros spectacles qui sont les matchs où on accueille une autre équipe, il y a des bénévoles qui vont être là pour préparer à manger, pour préparer les salles, parce qu'il faut monter la patinoire, il faut la démonter, donc il y a plein de choses autour de ce spectacle. Sur le Titan, on a 20 bénévoles.
On travaille aussi l'addiction sur certains entraînements. Très important. Hein. Mais Nico n'était pas là ce jour-là.
C'est bon, ça.
Avant de parler du Titan 4, le tournoi d'improvisation national, je vous propose d'écouter Zero Lex avec le titre It's a Real.
Thank you.
Vous êtes toujours à l'écoute de Campus, vous êtes toujours dans le sous-marin et nous, nous sommes toujours en compagnie de Marc Béziot, et Nicolas Berthoud de la compagnie Métis et de Nicolas Bonneau et Maxime Vriot de la LIMA, la Ligue d'improvisation angevine. On va tout de suite parler du Titan, et oui, du Titan 4. Quatrième édition, ce sera du 22 au 24 janvier au Théâtre de Chanzy. Comment vous est venue l'idée de créer ce tournoi il y a 4 ans maintenant ?
Il y a plus que ça. C'est la quatrième édition et c'est tous les 2 ans, donc on fait le calcul et puis on verra de...
À 3 vaches près, ça fait 8.
Ouais, c'est mieux comme ça. Donc ouais, l'idée c'est parti d'où
C'est parti du fait que... ailleurs en France, il y avait des tournois d'improvisation et qu'on avait envie de faire le nôtre, parce que c'est vachement bien de faire un tournoi d'improvisation. C'est tout un week-end avec les copains, c'est avec les copains d'Angers, de notre ligue, et aussi des autres ligues qu'on invite, parce qu'en général, c'est tout le temps des copains un peu partout, ça devient des potes. Donc c'est ça, c'est faire la fête tout le week-end, et puis pouvoir proposer aux spectateurs angevins un beau spectacle.
Il y a un vrai réseau des ligues d'impro, comme vous disiez, on est potes, mais vous êtes vraiment potes sur toute la France, tout le monde se connaît à peu près ou...
Eh bien, il suffit de les avoir joués une fois pour les connaître, et puis comme c'est assez proche, comme on finit la soirée ensemble à boire des coups, non, faut pas le dire. Si,
il n'y a pas de souci,
c'est ce qu'on fait tard auprès du CSA. On boit même avant le spectacle, donc... ça devient des amis parce qu'on s'amuse, parce qu'on passe des bons moments ensemble, et à partir du moment où on les a joués une fois, oui, on garde contact, parce qu'on a envie de rejouer avec eux, et Facebook est pas mal pour ça, hein, pour garder contact avec tous ces gens-là.
Donc, les équipes vont venir de Nantes, de Chartres de Bretagne, Niort, Paris, Lyon, ça doit être légèrement compliqué à organiser, non ?
C'est pour ça qu'on a plein de bénévoles.
Qui ne font pas que de l'impro, c'est ça ?
Voilà, oui. Ça demande pas mal d'organisation, pas mal de temps. Après, c'est du temps qu'on passe avec des gens qu'on aime bien, mais ça demande pas mal.
Le plus compliqué, c'était de sélectionner les équipes, parce qu'il y en a tellement qui veulent venir qu'il va falloir qu'on restreigne.
Alors justement, vous avez eu combien de demandes ?
Alors ça, c'est pas moi qui ai eu toutes les demandes, donc je ne saurais pas exactement combien de demandes. Mais effectivement, ceux qui sont déjà venus faire le Titan ont envie de revenir. Donc les seuls qui reviennent, c'est les vainqueurs. Et là, ça fait 2 ans, enfin 2 éditions que les RSA de Paris gagnent. Donc ils viennent remettre leur titre en jeu cette année, donc pour leur 3e édition à eux.
6 équipes, pourquoi limiter à 6 ? Je ne sais pas à 5, pas à 7 ou 8 ou...
Parce que c'est sur un week-end et qu'on ne peut pas se permettre de faire 15 000 spectacles sur un week-end. Plus on a d'équipes, plus il faut faire de matchs. Donc on a limité à 6. On s'était même posé la question de faire moins. Mais 6, c'est pas mal. Donc on s'arrête là-dessus.
Quand on dit tournoi, ça, c'est comme les tournois de foot. Il y a une phase de poule, match de classement,
exactement.
Etc. Il va y avoir des matchs de poule pour les 2 premiers spectacles. Ensuite, il va y avoir une petite finale et une grande finale.
C'est beau.
C'est tout pareil.
Donc, si on veut voir toutes les équipes, il faut venir le vendredi soir ou le samedi après-midi, parce qu'il y aura les matchs de poule. On fera jouer les 6 équipes sur ces 2 événements-là. Le samedi soir, joueront les 4 équipes qui ne feront pas la finale. Et donc, les finalistes, ceux qui auront gagné le plus de points, joueront le dimanche après-midi un match complet. Donc, le dimanche, on est sûr de voir un match complet. Le samedi, on voit 2 demi-matchs. Alors que le vendredi soir et le samedi après-midi, on verra des matchs un peu plus courts, mais on en verra 3.
Nicolas Berthoud, vous vouliez poser une question ?
Oui, parce que c'est un tournoi national. Est-ce que vous avez participé déjà à des tournois internationaux ? Parce que, me semble-t-il, nos amis québécois sont plutôt assez doués dans ce type de jeu.
Alors, en match d'improvisation, effectivement, on a fait des tournois en Suisse. En Belgique, je ne sais pas si la LIMA a eu l'occasion de faire des tournois en Belgique, mais des joueurs de la LIMA sont allés en faire. Au Québec, on fait des tournées de temps en temps au Québec. La dernière a eu lieu en 2012. On était parti 11 jours sur place. On a joué 10 fois. Donc chaque soir, on jouait. Et donc on joue vraiment partout. On pourrait même avoir l'occasion d'aller jouer en Italie ou en Angleterre, en français bien sûr, mais on aurait cette occasion. On pourrait avoir cette occasion de le faire. Mais en France, on bouge vraiment partout.
Vous parlez de match, mais alors qui dit match dit règle, dit point, dit classement. Alors comment est-ce que ça se juge un match d'impro ?
Eh bien alors c'est le public qui est le grand juge.
C'est ça qui est intéressant, c'est qu'à la fin de chaque impro, le public a un petit carton, il y a deux couleurs dessus, il lève son carton dans la couleur qu'il a préférée. Et c'est l'arbitre qui compte. Et à la fin, bah, il y a un total de points. Parfois prolongation, parfois pas. Avec,
Tout dépend de l'arbitre.
Exactement. En général, il y a prolongation.
Est-ce qu'il y a des chaos techniques, des fois ? Il y a des équipes qui vraiment se ramassent ?
Eh oui, ça peut arriver. Mais comme c'est le public qui vote, c'est rare parce que le public voit qu'il y a une équipe qui est un peu plus en deçà, peut-être, et va volontairement voter pour cette équipe pour lui redonner un peu de courage. Et le public est très, très participatif là-dessus. Et c'est pour ça que c'est très rare d'avoir un chaos technique. Mais le public a aussi un chausson qu'il peut jeter sur la patinoire quand il n'est pas content. En général, on préfère qu'il le jette sur l'arbitre. Hein. C'est très très rare qu'il le jette sur les joueurs. Mais l'arbitre se prend beaucoup de chaussons. Donc à Chanzy, il risque de se prendre à peu près 670 chaussons s'il n'est pas content sur chaque spectacle.
À bord l'arbitre.
C'est ça.
Très bel esprit, hein, très fair play. Marc Bézieux, Nicolas Berthou, ça vous tenterait, vous, d'essayer un match d'impro ?
En tant que comédien, pourquoi pas ? Pourquoi pas ?
Non, en tant qu'arbitre pour recevoir les chaussons, non, ça tombe.
C'est ça, en tant qu'arbitre, un peu moins.
En tant qu'auteur, moi, c'est un peu embêtant parce que j'ai rien à écrire, tout est improvisé. Non, alors, pour leur piquer des idées, si, tu vois, assister au match, ah, tiens, elle est bonne cette réplique, je la prends. Et puis moi, je la signe et je touche des droits. Oh, ça peut être un truc de ce genre, là.
Mais sinon, pour vous sortir de votre rôle aussi
Pour faire le comédien. Ouais, non, je donne déjà des cours, je fais assez le comédien devant mes élèves.
Non, par contre, j'ai eu l'occasion d'assister.
Et j'improvise tous les jours.
J'ai eu l'occasion d'assister en tant que spectateur. À des matchs d'improvisation, je trouve que les garçons et les filles sont très bien sur ce qu'ils font et je ne saurais le faire. Voilà.
Voilà. Ah, des belles éloges.
Après on n'a pas que le match d'improvisation, hein. On a le cabaret d'improvisation qui est beaucoup moins fight ou l'idée du combat, parce que même sur le match, c'est pas un combat, on fait de l'improvisation ensemble, on le fait pas contre, pour faire des belles histoires, mais on fait du cabaret. Hein. Maxime fait partie du cabaret. Expliquer ce que c'est d'ailleurs.
C'est un peu le même principe, merci. Merci. C'est un peu le même principe du cabaret, c'est-à-dire qu'au lieu de jouer, de rencontrer une équipe qu'on ne connaît pas ou très peu, on va jouer entre nous, avec quand même beaucoup plus de liberté, beaucoup moins de règles pour le coup. Sur des durées qui peuvent aussi être plus longues que 8 minutes, on peut faire des impros de 15 minutes, 20 minutes, c'est assez rare mais ça arrive. Donc on est beaucoup plus libre, un esprit beaucoup plus cabaret en fait, d'où le nom.
Oui, ça paraît logique.
Et donc sur 15-20 minutes, c'est quoi ? Ça marche avec des rendez-vous ? Comment est-ce que vous fonctionnez ? Vous dites, là on part 5 minutes là-dessus, après
on
donne des nœuds, des trucs des...
Non, ouais, ça peut marcher sur plusieurs formats. On peut travailler sur des tableaux, comme au théâtre. On peut travailler sur des ellipses de temps, sur... soit plusieurs tableaux, soit des ellipses de temps. On essaye de pour faire durer. Alors surtout... Commencer très lentement, c'est l'idée. Il ne faut pas donner l'intrigue et la solution dans les deux premières minutes. Quoi.
C'est ça, mais à minima, vous avez quand même un canevas.
Oui. Donc ça, c'est ce qu'on
grossier.
C'est ce qu'on travaille avec nos coachs, travailler des impros longues, travailler des impros courtes, travailler des impros à la manière de Shakespeare, travailler des impros à la manière d'un dessin animé. Voilà. Donc c'est notre travail toutes les semaines avec nos coachs d'impro.
Le sous-marin revient juste après ça.
Aïe, des bonbons.
Ça avec le titre Ousti Baba dans le sous-marin sur campus. Merci pour ce clin d'œil, Isabelle, c'était sublime. Tout de suite, passons à l'interview de la compagnie Métis, représentée ici par Marc Béziot et Nicolas Berthoud. Vous êtes allé présenter votre spectacle RPG 14 ou Le jeune homme et la machine à tuer à Londres, au festival Voilà Festival, c'est quand même plus anglais, oui, ça marche mieux dans ce sens-là. Comment c'était ? Racontez-nous un peu, comment vous avez été reçu là-bas ?
Alors, c'était comment ? Funny, on va dire. Funny, un peu angoissant, parce que RPG est un spectacle, alors contrairement à ce que propose Dalima, c'est un spectacle qui est très cadré, d'une part le texte et d'autre part par la mise en scène, et techniquement qui est assez lourd. Et c'était la première fois qu'on emmenait ce spectacle dans un festival. Il a vraiment fallu s'adapter et du coup improviser aussi parfois sur des problèmes techniques, en l'occurrence.
Et alors, vous êtes adapté sur quoi ? Sur quelle partie du spectacle ?
Énormément sur la lumière, hein, notamment, et puis sur le positionnement des écrans, puisqu'on utilise des écrans vidéo qui sont scénographiés de manière type sur un format de salle. Et là, on n'avait pas ni la profondeur, ni la largeur des espaces habituels. Donc, il a fallu s'adapter et pour la vidéo, et pour la lumière, bien entendu, parce qu'en festival, l'équipe technique monte un plan lumière pour l'ensemble des spectacles qui vont jouer dans le festival. Donc on a très peu de ponctuels, ce qu'on appelle des ponctuels. Voilà.
Et vous aviez en plus la question du surtitrage.
Oui.
Et alors ça s'est passé comment ? Ça a été bien reçu ? Ça a été, c'était facile, on va dire, d'accès pour le public ?
Alors in fine, c'est, pour le public anglophone, c'était plutôt facile. Par contre, tout le travail en amont de surtitrage, de traduction, d'export vidéo, etc., réalisé par Simon Astier a été un peu compliqué. Mais voilà, c'est fait maintenant. Et donc, on peut tourner dans tous les pays en surtitrage anglophone.
Alors, peut-être qu'il faut rappeler d'ailleurs pour les auditeurs qui n'ont pas vu le spectacle que ce spectacle a une caractéristique particulière. Il y a un comédien qui est seul sur scène et qui discute avec des avatars projetés sur un écran, hein, des personnages de jeux vidéo avec lesquels il est censé jouer au début du spectacle. Donc c'est la relation entre un jeune homme, donc un personnage vivant, et des personnages virtuels. Donc le comédien ne joue pas avec des comédiens vivants, il joue avec des personnages virtuels. Donc ça demande un calage extrêmement précis, donc effectivement des difficultés techniques très très particulières. Qui là ont posé oui quelques petits problèmes. Il y a eu un documentaire qui a été tourné sur cette tournée justement et qui montre bien les angoisses, même les moments où on se dit on va jamais y arriver, on sera jamais prêt à temps, on n'a pas de solution, et puis finalement on s'aperçoit qu'avec le métier, l'enthousiasme et le goût de l'improvisation technique, on y arrive.
Ouais, mais comme tu le dis, je pense que ça reste une question de métier. Tout à l'heure, vous disiez, messieurs de la Lima, vous nous demandiez en off si on essayait de se perfectionner. Bien sûr, bien entendu, que ce soit les comédiens, metteurs en scène ou même les équipes techniques essaient de se perfectionner par des stages, et on sait répondre assez facilement à quasiment tous les types de problèmes.
Et justement, vous en êtes sorti, la pièce, elle a été appréciée, vous avez des retours ?
Oui, on a eu énormément de retours. Alors, on a joué deux fois à Londres, une fois pour l'ouverture du Voilà Festival, donc là, devant un public anglophone et francophone. Et le spectacle a été vraiment très apprécié, notamment par des productrices françaises vivant à Londres qui souhaitent nous faire revenir. Donc ça, c'est plutôt intéressant pour nous.
Ouais, c'est un très bon point.
Oui, c'est un très bon point. Et puis le lendemain, on avait une séance scolaire avec des collégiens de l'établissement lycée français Charles de Gaulle de Londres, où les critiques ont été assez dithyrambiques, et a priori, les professeurs souhaitent aussi qu'on revienne dans les saisons à venir.
Donc en théorie, vous allez repartir en Angleterre assez prochainement.
Jusqu'en 2018, puisque c'est sur la garde 14, donc on s'est dit peut-être même 2019, il y a le traité de Versailles. On peut...
Ça passe, jusque-là, ça passe.
Non, c'est un spectacle qui peut durer 4 ans, c'est bien.
Vous avez constaté, en échangeant sur place, des différences d'approche entre le théâtre à l'anglaise.
Différence d'approche, notamment auprès des collégiens, ce qui nous a surpris, c'est que même pour un établissement français, en fait, ils vont très peu au théâtre. Et c'est ce qui nous fait dire que vivent les politiques culturelles à la française, parce qu'au moins, des collégiens, des lycéens ont la chance, dans les établissements français, en tout cas ceux que je connais, d'aller régulièrement voir des spectacles, qu'ils soient théâtraux, musicaux, de danse, etc. Ce qui n'est pas forcément le cas pour les jeunes anglais.
Oui, non, mais tout à fait.
Non, je croyais
rien
que
vous rien quelque chose. Vous aussi. Non, non, j'acquiesçais. On peut pas me voir là, mais j'ai un peu la tête du type, vous savez, le petit chien qui est à l'arrière des voitures, hein, qui fait oui.
Très bien, on va faire une pause avant de revenir pour la dernière partie de cette interview.
On a le retour d'un autre spectacle, c'est RPG 14 de la compagnie Métis. Alors, le topo vite fait, c'est un jeune de 2014 qui joue aux jeux vidéo et qui se retrouve par ce biais-là en contact avec des jeunes de 1914. Est-ce que vous trouvez que la jeunesse d'aujourd'hui, elle est trop connectée ou au contraire déconnectée ?
Bah du coup les deux. Elle est trop connectée et du coup déconnectée du monde réel, hein. Par rapport à plein d'événements qui se sont produits les dernières années, je trouve que notre génération est complètement déconnectée de la réalité, et ça va nous retomber sur la gueule un jour ou l'autre, je pense.
Alors c'est marrant parce que ces affiches, on a eu le débat il y a 3 jours avec des amis, et l'affiche, enfin on était assez troublés par l'affiche, qui à la fois on se disait bon ça peut être sympa, et en même temps l'affiche faisait, enfin donnait une image des jeux vidéo quand même assez mauvaise, avec un jeune de mémoire qui a les mains liées sur l'affiche, etc. Donc on se demandait un petit peu quel était le message véhiculé par cette pièce, donc j'aimerais bien en savoir plus, c'est sûr. Après, pour ce qui est de répondre vraiment à la question sur la jeunesse d'aujourd'hui, oui elle est hyper connue. connecté. Après, bah, c'est le changement du monde qui fait ça.
Ouais, on est beaucoup trop connecté. On doit peut-être se déconnecter de Snapchat, Instagram, Twitter, Facebook.
C'est important encore aujourd'hui, le devoir de mémoire.
Ouais, mais pas que. Bah, ça fait partie de notre histoire, mais je pense qu'il faut avancer. Hein. Je trouve qu'on en fait un petit peu trop, peut-être. Et on n'est pas assez dans le renouveau.
Le devoir de mémoire, c'est très important, ouais. Ça, c'est sûr et certain. Surtout sur les générations d'aujourd'hui qui, c'est vrai, ont tendance à s'abrutir devant la télé, devant des émissions complètement débiles, etc.
Oui, même si ça tombe dans une histoire qui s'éloigne un peu de nous, il faut quand même garder un souvenir pour tous ces événements, ouais.
Ah bah, c'est très important, ouais.
Là, c'est le moment badant d'un peu de l'interview. C'est quand je dis que c'est important parce qu'il y a la montée des extrémismes, des extrémistes religieux, politiques. Donc ouais, c'est important, le devoir de mémoire.
Et une pièce comme ça qui parle à la fois de la jeunesse d'aujourd'hui, de celle d'hier, ça pourrait vous intéresser ?
Ouais, complètement, ouais.
Bah, potentiellement, oui. Je vais me renseigner là-dessus.
Pourquoi pas ? Il faudrait que je lise un peu dessus, que je cherche un peu plus à quoi s'en tenir, mais ouais, pourquoi pas.
Éventuellement, oui, ouais.
Ouais, je suis intéressé.
Voilà, nous étions donc allés demander aux Angevins s'ils avaient entendu parler de RPG 14, et j'en profite pour remercier Camille qui m'a bien épaulé pour ce micro-trottoir. Il faut croire que les gens sont plus réceptifs quand c'est une jeune et jolie demoiselle qui leur pose des questions qu'un grand barbu.
Vous en pensez quoi de ce micro-trottoir ? Vous avez des réactions, Marc Bézieux, Nicolas Berthoud ?
Je suis d'accord qu'on est plus réceptif à une jeune demoiselle.
Effectivement, bah, là quand j'entends les réactions des jeunes gens, je pense que sur l'intérêt qu'ils peuvent porter à la pièce, c'est bien. Ils l'ont montré déjà puisqu'on a vu quelques spectateurs vendredi dernier puisqu'elle a été jouée à Chabrol et qu'elle sera jouée le 2 février
au Carnet.
Donc ils peuvent se déplacer encore, tous ceux qui n'ont pas eu l'occasion de la voir. Et elle sera jouée aussi en ouverture d'un autre festival, qui est un festival qui rassemble les compagnies professionnelles du SAS, auquel nous appartenons, le SAS qui est le...
Structure artiste associée et solidaire.
Voilà, et qui propose un festival qui s'appelle Ça chauffe tous les ans, et dont nous ferons l'ouverture le 15 février.
Le 15 février, voilà. Le festival a lieu du 15 au 21 février.
Voilà. Alors je pense que, bon, là on a fait la promo, c'est bon.
C'était l'instant promo.
Le 15 février.
Le 2 et le 15, hein. Vous notez bien sur vos agendas. C'était le cas, les tarifs sont tout à fait abordables. Sinon, pour en revenir au spectacle, effectivement, l'affiche est assez explicite. D'ailleurs, c'est des jeunes gens qui ont fait leurs études à l'intérieur de l'établissement qui nous entoure, qui ont eu l'honneur de nous la proposer. Enfin, c'est nous qui avons eu l'honneur de travailler avec eux sur cette affiche. Et effectivement, elle explique bien le propos, qui n'est pas une critique des jeux vidéo en soi. C'est pas le propos direct de la pièce. Alors, il y a une mise en cause puisqu'on parle de ça. Mais comme le disait un des jeunes interviewés, ça fait partie, toute cette technologie, elle fait partie du monde dans lequel baigne cette génération. Et aussi la nôtre, puisqu'on n'a pas le choix. Hein. Moi, je suis plus âgé, mais j'ai aussi un ordinateur, mais je suis aussi connecté. Effectivement, on n'a pas tellement le choix. Non, on a pris ce prétexte justement pour toucher ce public. On est parti sur le jeu vidéo pour pouvoir toucher ce public et lui parler, non pas du devoir, j'aime pas le mot devoir de mémoire, il y a un côté obligation, un côté... Non, mais effectivement, de l'histoire de ce qui s'est passé, mais qui n'est pas quelque chose d'éloigné, hein, que les événements, les gens qui ont vécu ça, ils nous ressemblent, c'est des gens comme nous, c'était des gens de leur âge qui avaient 20 ans, qui pouvaient aimer, qui pouvaient souffrir, qui avaient des idées, et qui se sont trouvés dans un maelstrom mondial contre lequel ils pouvaient pas grand-chose, hein, et qui se sont trouvés aux prises avec des choses qui sont pas si loin de ce qu'on vit maintenant. Il suffit de se référer à l'actualité la plus récente, hein. On est dans un univers violent, on était à l'époque dans un univers violent, les raisons sont pas tout à fait les mêmes, hein. C'est pas les mêmes causes, n'engendrent pas toujours les mêmes effets, mais on a toujours autour de nous ce terrain de violence, de nationalisme, alors à l'époque c'était le nationalisme, maintenant ça va être je sais pas quoi, les délires sectaires, les religions dévoyées ou je ne sais quelle autre manipulation mentale ou réaction au monde qui nous entoure, qui est un monde aussi, le monde capitaliste peut-être, qui est un monde hyper violent. Donc, et on a autour de ça des jeunes qui se retrouvent confrontés à cette violence.
Nicolas Bonneau, Maxime Vrigaud, vous en aviez entendu parler de RPG 14, vous aviez peut-être vu les affiches ou absolument pas ?
Absolument pas. Hein, nous, on est occupé. On est tellement occupé par nos. Par le Titan, hein, qui est vraiment très drôle. Non, on n'a pas du tout entendu parler de spectacle. Enfin, personnellement,
ça m'a donné envie d'y aller.
Oui,
je vais y aller.
Bon, très bien. L'instant promo a marché en tout cas.
On vous accueillera avec plaisir.
Avec plaisir, au contraire.
Je voulais revenir aussi sur le film documentaire qui a été tourné pendant le voyage à Londres.
Oui.
Ça doit être assez particulier de se retrouver en tant que sujet, quasiment, on ne va pas dire acteur, mais sujet d'un documentaire. Ça doit être une position particulière ?
Alors, particulier, oui et non. C'est-à-dire que Karen Rabalan, qui a réalisé le documentaire, a ce talent de mettre sa caméra à l'endroit juste pour qu'on l'oublie. Donc, la plupart du temps, je crois qu'elle a dû avoir une vingtaine d'heures de rush. Sur les 20 heures, s'il y a une heure où on regarde la caméra parce qu'on sait qu'elle est là, c'est tout. On l'oublie très vite et puis on est tellement ça a été une période assez courte en fait entre le montage du spectacle et les représentations plus les actions qu'on a menées de sensibilisation auprès des scolaires et les rencontres diverses avec les instituts français etc. On a été énormément pris et du coup en fait on est tellement dans l'action qu'on oublie très vite la caméra.
Ouais, c'est quelque chose où on n'y pense pas. Après, c'est sans doute aussi le talent du réalisateur qui fait que...
Exactement. Et puis après, bon, il y a toujours les petits cabotinages des comédiens, voilà, des petits sourires.
Surtout avec des comédiens.
Voilà, c'est ça.
C'est cabotiné.
Et après l'avoir vu, ça vous plaît, c'est fidèle.
C'est très bien.
C'est totalement fidèle à ce qui s'est passé. Je pense qu'en plus, elle a réussi une écriture dramatique qui emmène le spectateur dans une tension. Est-ce qu'ils vont arriver à faire ce spectacle ou pas en Angleterre ? Mmh. Et voilà. Et ça reste en suspens. Et j'aime beaucoup le suspens, puisqu'après, on a des échanges, que ce soit Karen, Marc, moi, ou les équipes techniques et artistiques, avec les spectateurs qui ont pu voir le documentaire. Voilà.
Très bien. et ben, on va s'écouter une musique avant de revenir pour la fin de la mission.
Today we're taking a look at the politics of immigration, the intersections of immigration, immigration social movements. Again, the obvious question
has always been a reason for excluding immigrants. Migrants. Migrants.
Is between immigration politics, immigration policy, and...
It occurs on a number of levels.
Migrants get demonized.
there's this issue of exclusion.
Vous êtes toujours dans le sous-marin sur campus. À l'instant, vous venez d'écouter The Incognito Traveler avec le titre Issues of Exclusion. Et avec nous dans le studio, Nicolas Bonneau et Maxime Vrio sont toujours là. Et oui, la Lima est bien représentée, puisque on rappelle que le Titan 4 aura lieu du 22 au 24 janvier au Théâtre de Chanzy. J'en profite pour dire que restez bien actifs et soyez attentifs sur les réseaux sociaux, puisqu'il y aura une dizaine de places à gagner. Je vous remercie beaucoup, messieurs, d'avoir participé à cette émission.
Merci à vous.
Merci à vous.
Et puis Marc Bézio, Nicolas Bertou, merci de la compagnie Métis, je reprécise. Merci beaucoup d'être venu dans nos studios.
Merci à vous.
Merci. Le 2 février au Carnet et le 15 février à Saint-Jean-Carmet, à Mur-et-Rigny.
C'est ça. Avec des prix accessibles.
Avec des prix tout à fait accessibles.
Évidemment, on le rappelle.
www.lima.asso.fr pour toutes les informations pour le Titan qui aura lieu.
Et les autres spectacles qui auront lieu au courant de l'année.
Au courant de l'année.
Très bien, messieurs.
www.compagniemetis.fr.
.fr, vous ne trompez pas. Avant de rendre l'antenne, Sacha de l'émission Ta gueule Coubertin, l'émission de sport, est avec nous. Sacha, qu'est-ce qu'il y a au programme ce soir?
Et ce soir, encore une émission croustillante qui vous attend. Donc au programme, il y aura un portrait de Djoko et de son actualité. On parlera de l'équipe de France de volley. On accueillera aussi Madame Irma et ses prédictions pour 2016. Mais avant ça, on parlera d'un résumé de 2015 en sport angevin. Et justement, j'avais une petite question pour les invités. Alors, qu'est-ce qui s'est passé le 22 mai dernier?
Oui.
Dans quel sport?
Non, c'était pas
dans quel sport?
Allez, un indice.
C'était en football.
C'est l'accession en Ligue 1 du SCO d'Angers.
C'est ça. Et c'était le dernier match de Ligue 2 qu'ils ont remporté combien? Quel score?
7-6, 58, 5, 32,
5, 5, 3. Presque ça, c'était 3-0,
14,
les gars.
14-18, maintenant.
39-45 plutôt. Non, c'est pas vrai. Et c'était donc un but de Ngosso et deux buts de Sacha Clémence.
Clémence, voilà, j'allais voilà. Dire. Qui ne joue plus au SCO?
Si. Plus du tout.
Non, il ne joue plus.
Merci beaucoup Sacha, en tout cas bonne émission et merci encore une fois messieurs d'être venus sur notre plateau et puis qu'est-ce que je vais vous souhaiter?
Bon spectacle.
Bon spectacle, bon tournoi et puis bonne continuation. Moi je vous donne rendez-vous demain, même heure, même fréquence pour un nouveau sous-marin et j'oublie pas de remercier Isabelle qui était à la réalisation de cette émission et Étienne à la programmation, Camille qui a participé au micro-trottoir et évidemment Thibaut qui était là tout au long de l'émission.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Retrouvez le sous-marin en podcast sur le www.radiocampusangers.com.